Comment ça va?
Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
Fais pour moi.
Orange juice with that ice, madame.
Thank you.
L'été comme jamais.
Ce fut assez brusque. Tout à coup, mes pieds ne touchaient plus le sol. Mon corps était comme en lévitation. Je ne contrôlais plus rien. Je ne pouvais pas résister. J'étais prise dans la foule. Emprise. Je me suis laissée emporter par cette marée humaine. Le ressac fut violent. Je manquais d'air. Et lever la tête vers le plafond de cette immense salle de concert n'y fit rien. Je me sentais minuscule, entourée de géants qui semblaient, eux, résister au mouvement. Je ne me souviens pas des morceaux joués par le groupe Dire Straits ce soir-là. Je me souviens seulement de cette sensation d'étouffement et de ce long moment, long comme une éternité. Depuis, j'ai assisté à des dizaines de concerts, de matchs de foot, j'ai fait des manifs. La foule ne me fait pas peur. Je sais simplement que je peux ne plus toucher terre. Mais comment réagissons-nous dans cette foule? Est-elle forcément mal intentionnée ou peut-elle engranger une forme d'intelligence collective? Et vous, souffrez-vous d'oclophobie ou aimez-vous ces bains de foule?
Eva Rock sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'été comme jamais sur France Inter. Trois invités ce matin pour évoquer ce thème de la foule. Depuis Berlin, où il officie en tant que chercheur spécialisé dans le comportement des foules, à l'Institut Max Planck, Mehdi Moussaïd est avec nous. Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous allez nous expliquer, comme vous le faites si bien sur votre chaîne YouTube, les mécanismes de la foule. Avec nous également Marion Montaigne. Bonjour Marion.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes illustratrice et scénariste de bande dessinée. Vous êtes à l'origine du terme fouloscopie que Mehdi Moussaïd a utilisé pour son dernier livre. Et vous avez également illustré le site qui est consacré à cet ouvrage. Et notre troisième invité est en studio avec nous. Bonjour Anne-Sophie Moreau. Vous êtes rédactrice en chef de Philonomiste, un média qui dépend de Philosophie Magazine, qui est dédié au monde du travail, de l'entreprise et de l'économie. Alors les occasions de prendre un bain de foule ces derniers mois ont quand même été très très rares. Est-ce que vous vous souvenez la dernière fois que vous vous êtes retrouvée dans une masse de gens et quelles sensations vous en gardez, Anne-Sophie Moreau?
Alors, moi, la dernière fois que j'étais dans une foule, c'était juste avant la fameuse crise du Covid, ou en tout cas son arrivée en France, ouais. Juste avant le confinement. Ça devait être fin février 2020 ou début mars même, où j'étais à Berlin, justement, avec des amis qui voulaient absolument aller en boîte à la ville de Renate, dans une boîte électro où on est, plein de monde dans un endroit plus que confiné où tout le monde sue, où tout le monde danse. Et je me souviens qu'à l'époque, je me disais, est-ce que c'est vraiment sérieux? Il y a ce virus-là dont on parle. Et j'étais pas très à l'aise quand même dans cette foule que pourtant j'adore.
Et depuis, vous n'êtes pas retournée dans une foule?
Non.
Ah ben, peut-être que ce sera dans un prochain concert, on ne sait jamais.
Ça me manque beaucoup.
Marion Montaigne, la dernière fois que vous étiez dans une foule?
Moi, c'était à une manifestation et il y avait énormément de monde à Bastille et à l'évacuation de la place, ça a été vraiment très dur. Mais moi, j'ai pas décollé, mes pieds n'ont pas décollé du tout, c'est plutôt l'inverse, comme je mesure 1m58 au max, j'ai plutôt eu l'impression que j'allais me faire
écraser,
marcher dessus et plus pouvoir respirer. Mais c'était un peu l'angoisse.
Marion Montaigne, je vous rassure, je suis pas très grande non plus, mais je pense que c'est ça qui a fait aussi que j'ai été transportée par les gens qui était beaucoup plus grand à côté de moi. Mehdi Moussaïd, la dernière fois que vous étiez dans une foule, c'était quand?
C'était probablement pour mes recherches en fait, parce que il fut un temps où j'étudiais vraiment les foules qui étaient dans la rue avant le virus évidemment. Et puis, j'avais l'habitude effectivement d'un peu de m'immerger pour aller me placer dans la situation des piétons que j'étais en train d'étudier, ce genre de choses. Donc ça devait être probablement, je me rappelle pas précisément, ça devait être probablement une galerie commerciale, un samedi après-midi, un jour de solde.
Alors deux questions, Mehdi Moussaïd d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez commencer par un exercice de définition? C'est quoi une foule?
C'est une définition qui est un peu difficile à donner parce que c'est ça. À partir de, on peut arriver parfois à des limites où la définition va être un petit peu floue. Mais moi, je la définirais comme un ensemble d'individus en interaction.
D'accord.
Tous les mots sont importants dans une définition scientifique. Donc un ensemble parce qu'il faut qu'il y en ait plusieurs, pas juste une personne. J'utilise individu plutôt que gens parce qu'en fait, on peut aussi définir comme foule, par exemple, un banc de poissons ou une colonie de fourmis.
Bien sûr.
Et on va avoir les mêmes mécanismes, donc on va utiliser vraiment le terme individu pour être plus générique. Et en interaction, parce que c'est justement à travers ces influences sociales qu'on va avoir avec nos voisins que va naître ce comportement collectif.
Oui, alors c'est ce terme de ensemble qui peut poser problème, parce que ensemble, on a, en tout cas, quand on parle de foule, on a envie d'avoir une donnée numérique quasiment, mais vous le définissez pas comme ça.
Non, parce qu'effectivement, on peut avoir un début de mouvement de foule avec très peu de monde. On étudie parfois, dans mes recherches, j'étudie des groupes de 5-6 personnes, par exemple. Et déjà, on peut avoir des débuts de mouvement de foule qui apparaissent. Alors, en général, effectivement, il y a plus de monde. Et mais le nombre d'individus finalement est pas si pertinent que ça. C'est plutôt le volume d'interaction sociale qui va être important.
Et alors, vous nous disiez que vous étudiez la foule donc sur le terrain. Comment vous faites ? Vous êtes au milieu des gens ou au contraire vous prenez de la hauteur pour essayer d'avoir une vue d'ensemble sur cette population qui est votre sujet d'étude ?
Oui, en général, je vais essayer de prendre de la hauteur. Je vais essayer de trouver un point de vue qui surplombe la foule pour placer, par exemple, une caméra vidéo et faire des enregistrements pour pouvoir ensuite étudier les données. Ça peut être utile parfois de s'immerger pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Des fois, je suis un peu bloqué. Je comprends pas vraiment comment expliquer un certain mouvement de foule. Disons que je vais aller me mettre un peu dans les chaussures des piétons. Et donc, je vais aller me placer au sein de la foule, au cœur de la foule pour voir vraiment comment ils se comportent. Mais la plupart du temps, il faut effectivement avoir un point de vue qui surplombe l'ensemble de la foule.
Vous le racontez très bien dans Fouloscopie, et c'est assez amusant d'ailleurs, c'est que même quand vous n'êtes pas en train d'étudier les gens, dès que vous sortez, même pour faire vos courses, vous avez l'impression d'être immergé dans votre sujet de travail, quoi.
Bah, c'est clair, la déformation professionnelle de ce métier, elle est ahurissante. Je suis en permanence en train de penser à mes recherches. Enfin, c'est plutôt mes recherches qui viennent s'immiscer dans ma vie privée. Et effectivement, dès que je marche dans la rue, dès que je suis dans le métro, dès que je suis sur Internet, parce qu'une foule, c'est aussi une foule d'Internet.
On va y revenir, bien sûr. Ouais.
Ouais. Dès que je suis sur Internet, tout de suite, j'ai des réflexes de chercheur. Ça ne me lâche pas.
Anne-Sophie Moreau, comment les philosophes abordent cette question de la foule ? Est-ce que elle est toujours perçue comme une espèce de puissance collective négative, comme le décrivait Gustave Le Bon, son texte Psychologie des foules date déjà de 1895, où il y a un versant plus positif de la foule.
Oui, alors enfin, historiquement, alors déjà je dirais que le terme véritablement de foule, il est assez récent, c'est-à-dire que avant on s'intéressait plutôt à la question du peuple par exemple en philosophie politique, et évidemment toujours aussi avec un versant négatif, c'est-à-dire que d'emblée voilà, depuis la philosophie antique, on s'est posé la question finalement du caractère moutonnier du peuple, de sa propension à s'attacher à un chef charismatique, donc potentiellement un dictateur, etc. Enfin, c'est toute la méfiance envers la démocratie qu'on connaît. Mais plus récemment, il y a aussi une pensée, donc effectivement avec Gustave Le Bon que vous avez cité, fin 19e siècle, et c'est pas un hasard que ces pensées de la foule véritablement arrivent, c'est aussi parce que c'est la période de l'industrialisation, de l'urbanisation, véritablement de l'époque moderne, où on a commencé à véritablement penser la foule dans la ville, vraiment ces masses de piétons qu'on n'avait jamais vues avant, en fait, finalement, dans les sociétés telles qu'elles étaient. Et là, on a eu une pensée de la foule plus précise, donc avec une vision très négative de Gustave Le Bon ou de Freud aussi, mais aussi une vision, je dirais pas positive, mais une vision peut-être plus ambivalente de la foule, par exemple avec Elias Canetti qui a écrit Masse et puissance en 1960, et qui lui, en fait, nous explique que la foule, c'est à la fois donc ce qui nous attire et ce qui nous repousse, on a envie d'en faire partie et en même temps on en a peur.
D'où l'image du ressac que j'utilisais, parce qu'on a vraiment l'impression, ça, quand on parle de marée humaine, c'est ça, quoi. Oui, c'est, on a à la fois une répulsion et une attraction à l'égard de ce mouvement.
Oui, et en fait, il nous dit, c'est intéressant parce que Canetti nous dit il n'est rien que l'homme redoute davantage que le contact de l'inconnu, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, on n'a pas envie de se mêler à la foule, on n'a pas envie de se mêler à autrui, mais il nous explique que, paradoxalement, il nous faut au contraire la densité de la masse pour pouvoir retrouver finalement le un plaisir du contact. Il nous dit que finalement c'est dans la foule, particulièrement lorsqu'elle est intense, voilà, dense, brutale presque, qu'on se libère de notre phobie du contact et que là ça se transforme finalement en une sorte de plaisir. Freud lui parlait d'un côté libidinal de la foule.
Ouais. Mais je pense qu'on va parler tout au long de cette émission de cette ambivalence de la foule, et évidemment Marion Montaigne, vous avez utilisé le terme de fouloscopie dont s'est inspiré ensuite Mehdi Moussaïd. Comment vous avez inventé ce mot ? Vous vous en souvenez, Marion ?
Non, c'est à la fin, quand j'avais fini ma BD, que il me fallait un titre qui finisse par I pour mettre mardi fouloscopie. Je crois que c'est un éclat de génie que j'ai parfois sans pouvoir le justifier très clairement. Mais je suis flattée que ce soit repris par les scientifiques.
Vous êtes du genre à aller dans la foule, Marion, ou vous essayez de vous en tenir éloignée?
Ah non, moi ça me fait super peur. Enfin, ça dépend parce qu'il y a, c'est vrai qu'il y a une sorte d'énergie qui fait oui. que on a envie de, bah ensemble, on a l'impression qu'on va tout déplacer, mais que pour la raison que j'ai dit tout à l'heure, que je suis pas grande, que je me suis retrouvée dans des manifestations assez énergiques où les foules, il y avait des grands mouvements à cause de gaz lacrymogène et à chaque fois devant la télé, on se dit moi je saurais gérer et sur place je ne savais pas du tout où aller. Et on court, on ne sait pas où on va.
Mais c'est intéressant ce que vous dites. Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que quand vous utilisez l'expression de déplacer les foules, hein, on a envie de déplacer aussi le monde, etc. Il y a cette impression de mouvement. J'aimerais qu'on écoute Marion un petit extrait de Tu mourras moins bête, hein, qui est la déclinaison en série animée de votre bande dessinée, et vous avez consacré un épisode à la foule.
Savez-vous qu'il existe des scientifiques qui observent nos déplacements collectifs ?
Fascinant.
Ils se sont rendus compte que dans les espaces où les portes sont mal fichues, les gens s'agglutinent en arc. Ceux de la périphérie poussent comme des sagouins.
Plus vite !
Pendant que les gens au milieu sont écrabouillés. Contre les murs, les pressions subies sont si fortes qu'elles peuvent atteindre en cas de panique 4,450 newtons par mètre carré. Pour éviter ça, on va soit ajouter plein de sorties de secours plutôt qu'une seule grosse issue, soit placer des colonnes ou des poteaux devant le passage pour vraiment alléger les pressions.
Aïe ! En plein milieu du chemin, bravo, hein !
Mehdi Boussaïd, c'est exactement ça, le mouvement de foule que vous étudiez. Tout est résumé dans cette série animée de Marion.
Oui, elle est super cette série. Je la connais par cœur d'ailleurs. J'ai beaucoup écouté la série animée après avoir lu en plus les bandes dessinées. J'étais très fier à l'époque parce que c'était il y a un petit moment déjà et c'était la première fois que j'étais mis en avant, que les oui. recherches étaient mises en avant dans pour le grand public. Et oui, c'est tout à fait ça. Par exemple, il y a cette illustration du poteau qu'on peut placer devant une issue de secours pour fluidifier une évacuation, par exemple, qui est un cas de figure que j'aime beaucoup, qui est très intéressant, qui a été découvert il y a une dizaine d'années à peu près.
Mais alors j'ai été très surprise par un de vos résultats, Mehdi Moussaïd. La dynamique d'une foule, elle dépend avant tout du nombre de personnes au mètre carré, et vous avez vraiment pu le mesurer.
Absolument. Donc c'est la première chose qu'on va mesurer quand on doit étudier une foule, je sais pas, aux abords d'un stade, dans une salle de concert ou pendant un grand rassemblement religieux par exemple. La première donnée qu'on va collecter, c'est la densité d'individus, pas le nombre d'individus. Donc vraiment le nombre de personnes par mètre carré. Et cette densité, en fait, elle va vraiment déterminer ce qui va se passer.
Oui.
Disons que en dessous d'une certaine densité, on va s'appuyer sur des outils qui sont plus de l'ordre de la psychologie par exemple, des sciences comportementales où on va étudier comment les individus collectent des informations sur leurs voisins et puis comment ils vont s'adapter à la position de leurs voisins, à la vitesse de leurs voisins et ce genre de choses. Donc là, on est vraiment en train d'étudier comment l'individu s'adapte dans oui. un monde social. Mais au-delà d'une certaine densité, il y a une transition qui va s'opérer vers 6-7 personnes par mètre carré, c'est déjà beaucoup, hein. On se retrouve avec une foule qui est tellement compacte que finalement l'intention des individus a assez peu d'importance et on va commencer à utiliser des outils complètement différents, on va utiliser les outils de la physique. On va commencer à décrire le mouvement d'une foule avec des équations de la mécanique des fluides, par exemple.
Voilà, comme si vous étiez face à des molécules, en fait. C'est ça, on devient des petites
molécules.
Exactement,
comme si on était face à une rivière, par exemple. Et là, en fait, ce qui est fascinant, c'est que ça marche, et que ça marche vraiment bien. Et qu'en fait, on peut décrire le comportement des deux gens, d'êtres vivants, avec des équations qui sont complètement dénuées d'humanité à la base, quoi.
Alors, dans un instant, on va décrypter les différents visages de la foule, une marée qui peut même être intelligente. Et si vous voulez réagir, vous, à l'émission, et témoigner de votre plaisir à être dans cette marée humaine ou au contraire de votre peur de la foule, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 ou à nous envoyer un mail ou même une note vocale. Il suffit de cliquer sur le bouton « Réagir » sur la page de l'émission « L'été comme jamais » via l'application ou le site.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I wanna get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. 1, 2, 3, 4. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Stay on the scene.
Get on up.
Like a sex machine.
Get on up.
Wait a minute. Shake your arm.
lose your form. Stay on the scene like a sex machine. You got to have the feeling. Sure as your bone. Get it together. Right on, right on. Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Get up.
Get on up.
Qui a électrisé des foules pendant des décennies et notamment au début des années 70 avec ce titre Sex Machine.
L'été comme jamais. Eva Rock sur France Inter.
L'été comme jamais s'offre un bain de foule ce matin, dimanche dernier. Une joyeuse marée humaine s'est formée à Marseille. Une foule qu'on avait oubliée et ça donnait ça. Une foule de supporters au stade Vélodrome pour un match de foot, évidemment. Mehdi Boussaïd, nous n'avons pas entendu cette clameur pendant des mois. Alors on sait que cette ferveur, elle est quand même inhérente à la cité phocéenne. Mais d'après vous, est-ce que nous allons encore avoir envie de prendre un bain de foule dans un concert ou un match ou une manif après ces mois de crise sanitaire ? Est-ce que ça trompe pas votre métier de chercheur finalement?
Aussi, oui. Je pense que effectivement, les gens vont encore avoir envie de prendre des bains de foule après ces deux années presque de crise sanitaire. Je pense même que ça leur manque et qu'ils ont vraiment hâte et que même la moindre occasion, oui, le moindre prétexte, disons, sera une bonne raison pour aller se rassembler dehors. Je pense que ça manque beaucoup.
Mais vous pensez qu'on va changer nos comportements ou pas dans la foule? Bon, c'est un peu, vous faites pas de la prédiction, mais enfin.
Ouais, c'est ça.
C'est compliqué.
je pense pas vraiment. Je pense que dans l'ensemble, disons que les connaissances, la science va assez peu changer à ce niveau-là. Peut-être qu'il y aura des changements après tout, finalement, j'en sais rien.
Est-ce que vous avez les moyens de nous expliquer pourquoi une foule peut être animée des pires sentiments? Alors, je pense aux hooligans, parce qu'on parlait de foot il y a quelques instants, mais il y a d'autres exemples, évidemment. Et puis, le lendemain, une foule animée plutôt par des sentiments de solidarité très forts. Qu'est-ce qui explique qu'on a cette ambivalence, justement?
Il y a une très grande tendance qui s'applique presque à tous les cas qu'on a l'habitude d'utiliser entre chercheurs, c'est de dire que la foule agit comme un miroir grossissant et qu'elle va avoir tendance à amplifier ce que les individus qui se rassemblent ont en commun. Donc si ce sont des individus qui se rassemblent par exemple parce qu'ils sont en colère, eh bien la colère de chacun va être exacerbée, elle va être amplifiée par le fait qu'on soit ensemble. Mais ça peut être aussi l'opposé, hein. Si la foule se rassemble parce qu'elle est heureuse, comme par exemple après, dont je cite souvent 2018, la victoire d'équipe de France à la Coupe du Monde, et puis les gens se rassemblent sur les Champs-Élysées, ils sont tous heureux, eh bien d'un seul coup, cette joie va se transformer en euphorie, les gens vont commencer à pleurer de joie alors que chez eux, ils étaient juste modérément heureux. Et en fait, le fait d'être tous ensemble et de partager surtout, c'est ça qui est important, de partager la même émotion, qu'elle soit positive ou négative, va amplifier cette émotion et puis va conduire parfois à des débordements qui peuvent être soit heureux, soit moins heureux.
Anne-Sophie Moreau ?
Oui, alors cette ambivalence en fait de la foule, c'est par exemple Elias Canetti, il l'explique en se disant que en fait on éprouve un tel soulagement à se décharger de tout ce qui nous tenait à distance les uns entre les autres, on a un sentiment donc d'égalité et de solidarité très fort. Voilà, c'est quand on entend le stade de Liverpool qui chante You'll Never Walk Alone Again, c'est voilà, sent qu'on se sent en fait tous égaux, tous ensemble. Il y a quelque chose de grisant. Et en même temps, cet enthousiasme, cette euphorie, en fait, elle se transforme en son contraire très rapidement. Pourquoi ? Parce que alors Canetti nous explique qu'une foule, lui, il a passé une masse.
Oui.
Il nous dit dans Masse und Macht, masse et puissance, il nous explique que la masse, elle a pour caractéristique de vouloir grandir. Il la compare au feu. Il dit en fait, une fois que la masse s'est constituée, elle veut absolument grossir, quitte à détruire tout sur son passage. Et en fait, comme le feu, elle ne peut se dissiper qu'après avoir tout détruit. Il y a vraiment une pensée du danger de la foule chez Canetti qui est très fort. Et ce qu'il nous explique en fait, c'est que la foule, en fait, du fait de son plaisir de retrouver cette égalité entre les individus, elle s'en prend particulièrement à tous les symboles en fait de la mise à distance sociale. Donc, c'est-à-dire, par exemple, il dit que la foule, elle s'en prend particulièrement aux maisons fermées, aux murs, ou bien aux symboles, aux rites.
Alors, aux statues, comme on a pu voir, les statues des Boulonnais,
etc. Donc, typiquement, les statues, typiquement, vous voyez, les gilets jaunes, l'Assemblée nationale, on veut rentrer, évidemment. Oui. Ou bien, on s'attaque aux magasins, forcément, aux vitrines de luxe sur les Champs-Élysées. Donc,
ce qu'on a vu avec le Capitole, d'ailleurs, on a beaucoup reparlé de la puissance de la foule au moment de l'attaque du Capitole aux États-Unis.
Voilà. Donc en fait, c'est ce plaisir d'égalité qui se renverse en une attaque de tout ce qui pourrait justement menacer cette solidarité nouvelle. Voilà, c'est son côté révolutionnaire, mais aussi destructeur. Et évidemment, il y a aussi à la fin la question aussi du moment où, alors Canetti nous dit que la foule elle est forcément dans une sorte de délire de persécution et qu'aussi elle risque de prendre des boucs émissaires. Alors on l'a vu récemment aussi avec, il y a eu un adolescent qui a été lynché en Algérie parce qu'il était accusé d'avoir provoqué les incendies. Voilà, on connaît aussi ce problème de la foule qui en fait va s'en prendre à un bouc émissaire rapidement et très violemment.
Marion Montaigne, quand vous entendez Mehdi Moussaïd parler de cette foule et qui nous explique aussi les processus, la mécanique de tout ça, quand on entend aussi Anne-Sophie Moreau, est-ce que ça vous rassure un peu ? Parce que vous comprenez mieux ou au contraire, ça vous tient encore plus éloigné de la foule ?
Alors moi, avec le Covid, j'aurais tendance à,
et oui.
à toujours me méfier un peu, mais c'est aussi par un peu automatisme désormais. Non, moi, ça, c'est aussi que c'est une image de la foule aussi, que l'image qu'on a dans les films ou l'image. Moi, quand vous parliez, ça me rappelait des images que j'ai regardées de tests de crash en avion. Alors, j'ai une documentation assez intéressante et où on demande à des gens. Des volontaires d'évacuer au plus vite possible un avion.
Et je me
disais, mais ça dépend tellement du sentiment qu'on a. Si c'est une simulation, on sait qu'on ne risque pas grand-chose. Mais si vraiment qu'il y a un incendie, qu'on est avec ses enfants, c'est une autre. Le sentiment est décuplé, en effet. Moi, c'est un truc que moi, c'est quand la foule devient négative ou angoissée qui, moi, me fait plus peur que dans un concert où tout le monde est content. Normalement.
Alors, on a reçu beaucoup de messages d'auditeurs qui nous disent, par exemple, Cécile, je ne suis pas toujours à l'aise en petit comité, mais quand je suis dans une foule, Je me sens portée par une énergie que je n'arrive pas à décrire. Le 8 mars 2020, elle nous dit qu'elle était en Argentine, dans la foule de femmes qui manifestaient pour le droit à l'avortement, qu'on appelle la marée verte à cause de leur foulard de couleur. Et l'énergie était telle que je me suis mise à pleurer sans pouvoir m'arrêter. Cette énergie est parfois indescriptible dans une foule. Rosemary, pareil, elle nous dit « Quand j'arrive dans une salle de concert bondée, elle aime bien la musique métal, je remarque une énergie folle qui m'envahit. Je suis émue de voir toutes ces personnes rassemblées pour la même raison, le plaisir de la musique. » Et bien sûr, quand on tombe dans un pogo, vous savez, ce pogo, c'est cette danse où on se fracasse tous les uns contre les autres, un peu comme vos molécules, Mehdi Moussaïd, on se précipite pour nous aider à nous relever. C'est très bienveillant. Et plus jeune, j'adorais slammer, me laisser porter par la foule en sautant depuis la scène. Quel plaisir, quelle joie, un sentiment magique. Mehdi Moussaïd, est-ce que vous arrivez à étudier, analyser ces sentiments et ces émotions positives dans vos études du comportement de la foule? On a des instruments pour mesurer ça?
Non, en fait, c'est quelque chose qui est très difficile à faire, d'aller se focaliser sur ce que ressentent des individus au sein de la foule. C'est pour ça que la plupart du temps, on va avoir des données, des analyses qui agissent à l'échelle collective, donc vraiment comment se comporte la foule comme un tout, comme si la foule était une créature unique en quelque sorte. Et c'est difficile de zoomer et puis d'aller voir quelles sont les composantes de cette créature et puis comment elles interagissent, quelle information circule, etc. C'est assez galère. C'est pour ça aussi que il y a un thème, par exemple, qui est très peu compris. C'est celui de la contagion émotionnelle, parce que les émotions ont une tendance à être un peu contagieuses dans une foule, à se propager d'une personne à une autre. Et ça, c'est un thème scientifique qui est très dur à étudier, parce que c'est dur de mesurer une émotion. On peut pas mettre un chiffre dessus, on peut la caractériser avec des mots, mais si on veut faire de la science quantitative, en quelque sorte, il faut mettre un chiffre sur ces émotions, et c'est, bon, pour l'instant, c'est des choses qu'on sait pas faire.
Alors, on parlait des émotions dans le cadre de cette contagion sociale dont vous venez de nous parler, mais il y a aussi les jugements, les opinions. Comment tout ça fonctionne?
Il y a, je pense que d'une manière générale, quasiment tout ce qu'on peut imaginer est contagieux dans une foule.
Oui.
Donc il y a le déplacement, un simple déplacement déjà, ça a une nature un peu contagieuse. Quand vous vous déplacez dans la rue en tant que piéton, vous en rendez probablement pas compte, mais vous allez influencer le déplacement des gens qui sont juste derrière vous. Par exemple, si vous choisissez de passer à droite ou à gauche d'une autre personne ou d'un poteau,
ensuite,
inconsciemment, ceux qui sont derrière vous vont tendance à suivre. Donc il y a une forme de contagion dans le déplacement. Il y a une contagion dans les émotions. J'en parlais tout à l'heure. C'est quelque chose qui est dur à étudier, mais elle existe. Il y a une contagion dans les jugements. Ça, c'est des choses qu'on va étudier plus sur les réseaux sociaux, par exemple, qu'on peut faire aussi dans le cadre, par exemple, familial, où on va bien se rendre compte que des gens qui pensent une certaine chose, ben, vont avoir tendance à propager, en quelque sorte, cette pensée aux gens qui les écoutent, qui eux-mêmes vont le propager à quelqu'un d'autre, et puis on va avoir cette contagion comme ça. Et donc, en fait, on utilise des modèles d'épidémiologie. Désolé de revenir toujours sur le thème de l'épidémiologie. Ça fait 2 ans qu'on en parle, mais nous, on utilise bien des modèles d'épidémiologie, mais au lieu de décrire la propagation d'un virus, on décrit des choses comme des émotions, des comportements ou des jugements.
Anne-Sophie Moreau, vous vouliez réagir?
Oui, sur la question des sentiments ou de la pensée de la foule. Par exemple, Gustave Le Bon, donc voilà, qui était le premier grand théoricien de la psychologie des foules et aussi de leur dangerosité. Lui, il pense que les foules ne réfléchissent pas, c'est-à-dire qu'il soutient que l'individu abandonne toute pensée, tout jugement. C'est aussi ce qui mène à cette déresponsabilisation totale de la foule. Mais par contre, qu'il est porté par son inconscient, par ses sentiments. Alors lui, Le Bon à l'époque, il y a tout un tas de clichés, il nous explique la foule.
Il voit ça très négativement.
La foule, c'est un peu comme un enfant, il nous dit comme un sauvage. Et la foule est féminine, hein, voilà, c'est-à-dire qu'elle est portée par ses émotions, elle est incapable de juger, voilà, rationnellement de ce qu'elle fait. Mais c'est encore une fois ce qui donne son caractère ambivalent que lui-même reconnaît aussi, puisqu'il nous dit que la foule, justement, parce qu'elle est portée par ses sentiments, elle peut faire à la fois preuve d'héroïsme comme de médiocrité, voire de violence.
On va parler justement de ce sentiment de jubilation et puis aussi cette intelligence collective qui peut naître dans une foule. Ce qui m'a énormément étonnée en lisant votre livre, Mehdi Moussaïd, Fouloscopie. Fouloscopie, le nom inventé par Marion Montaigne qui était avec nous. Marion, on vous remercie infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Et je conseille votre bande dessinée Tu mourras moins bête qui est publiée chez Delcourt. Toute la série animée est encore disponible sur arte.tv. Et votre succès qui date déjà de 2017 dans La Combi de Thomas Pesquet aux éditions d'Argo. Merci beaucoup Marion Montaigne.
C'est moi, merci. Remember what might have been, had I walked you home.
Du groupe de rock formé par l'ancien d'Oasis, Noël Gallagher's High Flying Birds.
France Inter, l'été comme jamais.
Alors pourquoi est-ce qu'on a toujours l'impression que la foule chante juste ? Bien, si on fait une petite expérience et qu'on se rapproche un petit peu pour écouter juste quelques personnes, ben ça sonne pas terrible. Et à mesure qu'on prend du recul, hop, d'un seul coup, le chant devient mélodieux.
C'est un phénomène très étrange que vous venez d'entendre dans ce numéro de l'été comme jamais sur France Inter, grâce à vous, Mehdi Moussaïd, puisque c'est un extrait de votre chaîne YouTube. Des gens réunis dans un concert chantent juste, alors qu'ils sont souvent de piètres chanteurs. Comment c'est possible ?
Ça donne toujours des frissons.
Ça donne toujours des frissons, on est d'accord.
Le chant collectif, c'est toujours super. Ouais. J'adore ça.
Comment ça se fait ? Vous arrivez à
effectivement,
l'expliquer ?
Oui et non, parce qu'il y a encore des recherches, il y a plusieurs hypothèses, et a priori, elles sont toutes vraies en même temps. La première raison, ce serait qu'il y a une forme d'influence sociale à nouveau, et que les gens qui chantent juste ont un peu plus confiance en eux, ils chantent plus fort, et les gens qui chantent moins bien, ils le savent aussi, ils vont avoir tendance à s'ajuster sur leurs voisins, et donc à s'ajuster sur ceux qui chantent plus fort. Et donc ainsi, on va avoir un ensemble qui chante, disons, correctement. La deuxième raison, qui est à mon avis encore plus importante, c'est un effet d'illusion acoustique, en fait. C'est que la personne qui écoute va en quelque sorte corriger automatiquement les fausses notes, c'est-à-dire que notre cerveau va s'adapter un petit peu, puis corriger les fausses notes, et puis on va avoir l'impression, en fait, d'entendre quelque chose qui est complètement juste, alors qu'en fait, il y a des fausses notes que notre cerveau a intelligemment effacées.
D'où l'intelligence collective, on va en reparler, mais dans l'équipe de l'été comme jamais, Mehdi, on avait très envie de savoir quelles étaient les sensations de celui ou de celle, en l'occurrence, qui est sur scène devant la foule. Bonjour Rebecca Warrior.
Bonjour.
Merci d'être avec nous d'abord, avec nous ce matin. Vous êtes chanteuse, musicienne, DJ, cofondatrice de la maison Warrior Records. Vous jouez dans 3 duos, notamment Mansfield Tia, Compromat et Sexy Sushi. Vous produisez en solo également. Quelle est la plus grosse scène que vous ayez faite, Rebecca Warrior ?
La plus grosse scène que j'ai faite, j'ai joué à Glastonbury en Angleterre ou à Exit Festival en Serbie, c'est des très gros festivals.
Il y a combien de personnes devant vous dans ces moments-là ? Vous le savez ?
Je sais pas devant les scènes, mais par exemple au Vieille Charrue, c'est un festival qui glane 280 000 festivaliers, donc
ouais.
Il y a des scènes à 10, 20 000, 30 000 personnes, quoi.
Alors quand vous êtes sur scène, est-ce que vous la sentez, cette foule? Est-ce qu'il y a une vibration particulière?
Ouais, je la sens bien. Là, j'écoutais ce que vous disiez juste avant sur le chant et qu'on a la sensation que tout le monde chante juste. Peut-être, mais par contre, quand les gens tapent dans leurs mains, c'est très arythmique.
Mais est-ce que ça peut vous perturber? Ça peut vous troubler?
Ah, bien sûr.
Ah oui.
Bien sûr, bien sûr. Qu'ils chantent, c'est pas très, très dérangeant, mais c'est vrai que quand ils commencent à taper dans les mains, j'ai des sueurs, des fois, sueurs froides de les voir commencer et puis de vraiment se décaler petit à petit.
Et ça vous embarque, en fait?
Oui, ça m'embarque à faire n'importe quoi.
Mais alors, est-ce que ça vous fait peur parfois, cette foule? Ou vous avez pas, non. Vous avez pas le temps de vous poser cette question-là?
Moi, je suis prise dans une sorte de, je suis comme Adjani dans Possession, vous voyez, je suis vraiment embarquée par mon truc, et du coup, je pense que j'embarque les gens aussi, mais j'ai pas le temps d'avoir peur, et puis non, je suis plutôt dans un monde animal et assez confortable, où je me sens bien.
Est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous qui jouez avec plusieurs formations, vous sentez des foules différentes en fonction, évidemment, de la musique que vous jouez et en fonction du type de formation avec laquelle vous êtes?
Ouais, c'est les émotions induites par la musique sont pas du tout les mêmes. Donc, quand je joue avec Mansfield, les gens ont tendance vraiment à être en introspection et à parfois pleurer. Et par exemple, avec Sexy Sushi, où là, les gens étaient vraiment devenaient un petit peu des foufous, et ouais. Puis se déshabillaient, dansaient. Ouais, Compromat, c'est un peu cold, donc ça induit pas du tout les mêmes sensations.
Alors, pardon pour cette question, parce qu'on la pose souvent aux artistes, mais quand vous êtes sur scène et que vous regardez les gens qui sont devant vous, est-ce que vous voyez une multitude d'entités individuelles ou vous êtes devant une sorte de collectif uniforme, un peu comme si vous étiez devant une vague?
Ça dépend, quand je fais un slam, c'est plus une vague,
ouais.
Une vague de main. Mais sur scène, en fait, moi, j'ai tendance à regarder le premier rang. Donc, je suis assez en contact avec des yeux et des individus singuliers.
Et vous vous sentez puissante devant cette foule? Est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez la diriger d'une façon ou d'une autre?
Alors, ça dépend ce que je fais, oui. Quand j'étais sur scène avec Sexy Sushi, oui, je pouvais un peu diriger. Et donner des ordres et être un peu dictatorial même. Et au contraire, avec Mansfield, je me sens très très faible et presque c'est eux qui me dirigent. Donc,
mais alors, oui, vous disiez que vous pouvez diriger cette foule, que vous pouvez être même dictatorial. Est-ce que ça vous fait pas peur de voir les gens réagir aussi mécaniquement à un ordre que vous donnez?
C'est plutôt cool comme sensation, je vous assure.
Donc vous avez bien ce sentiment de puissance. Anne-Sophie Moreau, la foule, elle peut être un rassemblement joyeux, notamment dans un concert, un moment de jubilation. Parfois, il est question de résonance collective. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette notion?
Oui, alors c'est une notion d'un philosophe qui s'appelle Hartmut Rosa, qui est sociologue aussi, qui a écrit beaucoup sur l'accélération notamment de nos sociétés modernes. Et lui, en fait, quand il s'intéresse à la manière dont on communique, dont on vit, il dit que voilà, nos vies s'accélèrent. On le voit, on envoie des emails toute la journée. On a l'impression que tout est accessible facilement, que le monde est disponible autour de nous. Mais en même temps, il nous dit que pour autant, on n'est pas véritablement disponible à ce qui nous entoure. On n'est pas véritablement dans une disposition d'écoute, notamment. Ouais. Et Rosa, il nous dit que la solution à l'accélération, ce n'est pas la lenteur, mais la résonance. Et je trouve que typiquement dans la fête
ou dans
le concert, voire dans la fête techno, vous voyez, ouais. Par exemple, où il y a véritablement une foule en rythme, ce qu'on ressent, c'est que c'est parce que ça peut être un rythme rapide qui fait résonner tout le monde, ou bien dans un stade quand on chante, et c'est véritablement un moment dans lequel on est en résonance avec les autres, c'est-à-dire ouais. qu'on est dans une disposition telle qu'on n'est plus en demande, voilà, oui. On n'est plus en train d'essayer d'imposer quelque chose à ce qui nous entoure ou aux autres, mais on résonne avec ceux qui nous entourent, ceux au pluriel qui nous entourent, voilà, dans une sorte d'osmose qui est en fait le fait d'être ouvert en fait, ouais, à ce qui vient.
Alors c'est étonnant parce que quand vous nous décrivez cela, Anne-Sophie, il y a même votre corps qui bouge. Donc on sent que cette résonance collective, elle est aussi corporelle.
Oui, bien sûr. Oui. Et d'ailleurs, oui. Enfin, je voulais répondre aussi, faire réagir à cette question du chant que vous avez évoqué tout à l'heure. Par exemple, j'ai beaucoup chanté en chorale avec un chef de chœur qui s'appelle Jean-Paul Baget et qui nous faisait faire des exercices très intéressants, notamment sur cet instinct. Je dirais quasiment primitif, en fait corporel du groupe, qui est que, par exemple, ils pouvaient nous lâcher, nous dire allez-y, commencez tout seul, sans qu'on vous donne le rythme.
Oui.
Voilà. Et c'est quelqu'un qui tenait aussi à chanter avec des gens qui n'avaient aucune connaissance musicale. On a beaucoup chanté avec Athée Descartes-Monde, voilà, avec des gens qui n'avaient jamais chanté. Et en fait, on se rend compte que dans le groupe, on est capable, en étant justement à l'écoute, en étant en résonance avec ce qui nous entoure, de sentir le bon moment, sentir le moment où le groupe, vous voyez, il y a un petit truc qui frémit, et là on sent qu'on peut commencer, on démarre, et on démarre en même temps, c'est incroyable.
Et c'est ça, Mehdi Moussaïd, ce qu'on appelle l'intelligence collective, ça fait partie de ça, de ces mouvements-là?
C'est peut-être c'est une branche de ce domaine de recherche qui est peut-être pas la plus visible, la plus recherchée en ce moment, mais effectivement il y a aussi les phénomènes de synchronisation qui sont très intéressants, particulièrement lorsqu'une foule applaudit après une prestation, après un spectacle par exemple, vous avez parfois ce moment où le public se met à applaudir de manière synchronisée, vous savez, quand on commence à taper dans nos mains et puis de manière totalement synchronisée. Et puis il y a beaucoup de chercheurs qui se sont demandés, mais en fait comment ils font les gens en fait pour se synchroniser comme ça. Comment ils font pour taper exactement au même moment? Et en fait, la transition entre l'applaudissement un peu chaotique et l'applaudissement synchronisé, cette transition, elle est extrêmement rapide. Et pourtant, personne ne décide du rythme ou bien du tempo avec lequel les gens vont se synchroniser. Et pourtant, la foule y arrive. Et ça, c'est des choses qu'on peut étudier. Et puis, on a démontré, par exemple, que c'était principalement dû à un effet d'influence sociale où chacun va essayer d'ajuster son clapping sur ses voisins les plus proches.
Oui, alors enfin, en tout cas, Rebecca Warrior, vous nous disiez que parfois ça marche pas forcément, cette synchronisation.
Il faut un moment d'ajustement, on va dire.
Oui. Quelle est la meilleure musique pour mettre une foule en transe? Vous avez testé des morceaux ou un type de musique où là vous sentez que ça part tout de suite?
Ben là, vous parliez des fêtes techno et des warehouse où moi je joue aussi souvent, et c'est vrai que c'est ce que je préfère faire, les DJ sets où il y a vraiment une osmose avec le public, et c'est eux qui induisent aussi ce que je vais devoir jouer, et qui tout le monde décide en même temps en fait d'être dans cette fête et de faire quelque chose de collectif. Ça, c'est assez beau.
Ah, donc c'est
une belle transmission.
Là encore, c'est quasiment une forme d'intelligence collective, c'est-à-dire que c'est plutôt un truc positif qui ressort de la foule.
Totalement, ouais.
Est-ce que vous aimez vous retrouver de l'autre côté, c'est-à-dire être dans la foule?
Pas du tout, moi j'aime pas trop ça. Ouais.
C'est vrai, vous détestez ça?
Pardon?
Vous détestez ça?
Je suis pas très fan. J'aime bien dans les fêtes techno parce que on est un peu tous ensemble et à la fois tout seul. Mais par exemple, l'effet stade de foot, je sais pas si j'aimerais.
D'accord. On a eu des messages de nos auditeurs. Catherine, elle nous dit « Je suis plutôt fascinée par la foule lors d'un concert. Elle peut être électrisante, sauvage et violente, ou alors communiante et pacifique. En tout cas, c'est magnifique. » Vous voyez, c'est exactement ce que vous disiez, Rebecca. Ou Jimmy qui nous dit « Moi, je suis angoissée par la foule. À mes yeux, c'est un moment de jugement et de scrutation de la part des autres, nous dit-il. Étant dunkerquois, paradoxalement, le seul moment où je n'ai plus peur de la foule, c'est au carnaval. Des milliers de personnes déguisées, masquées, amusées, nous sommes collésérées et on oublie tout le reste, et en plein hiver ça réchauffe, et on est tout à fait d'accord avec lui. Rebecca Warrior, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Alors on n'est pas là tout de suite des milliers devant vous, mais dans quelques secondes on va être des milliers à écouter votre musique. Le titre s'appelle Off the Dozen, Rebecca Warrior et Mansuit Tia sur France Inter. Dorénavant, il ne te reste que ma voix.
problème. Tu ne me sauveras pas. Je ne suis plus ton problème. Nous étions dans l'embarras. C'était tout un dilemme. Avec nos morts et nos vies sur les bras. Amen et auf Wiedersehen. Ça n'est plus mon problème.
C'est avec votre musique, Rebecca Warrior, que je vais remercier nos invités. Merci à vous déjà d'avoir pris le temps de nous parler. Vous êtes en tournée, en solo ou en formation. Vous passez notamment par Genève et Morlaix. Et dites-moi si j'ai tout bon, mais vous savez déjà ce que vous ferez le 1er novembre 2022 ?
Oui, je sais déjà, ouais.
Vous serez où ?
Je serai à l'Olympia.
Avec Mansuitia, c'est ça ? D'accord. Merci infiniment, hein, Rebecca.
Les agendas sont...
déjà bouclés.
Sur le long terme.
Bon, on retrouve évidemment toutes vos informations, notamment sur votre page Facebook. Merci d'avoir été avec nous. Merci Mehdi Moussaïd.
Merci à vous.
Avec plaisir.
Vous étiez, mais non, c'est moi. Vous étiez en direct de Berlin grâce aux moyens techniques de notre confrère correspondant Ludovic Pietenu. Et puis, alors, je recommande vraiment votre livre Fulloscopie. C'est aux éditions Humaine Science. C'est très intelligent et c'est surtout très drôle aussi. Pour une fois qu'on s'amuse en lisant un livre de science, il faut quand même le signaler. Et merci Anne-Sophie Moreau.
Merci.
Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de Philonomiste, un média dédié au monde du travail, de l'entreprise et de l'économie. Comme tous les jours, je vous propose de prolonger ce sujet avec un film signé Ken Loach et intitulé « Looking for Eric ». Eric comme Eric Cantona, un moment de poésie doublé d'humour pour évoquer la relation entre un postier de Manchester qui est fan de foot et du joueur, en l'occurrence, son idole Eric Cantona. Et les scènes avec les supporters du club anglais sont à hurler de rire. Le film est disponible en streaming ou en DVD et vous verrez à quel point une foule peut être aussi amusante, joyeuse et que un mouvement de foule est aussi jubilatoire. Un grand merci à l'équipe d'artistes, j'allais dire de l'été comme jamais. Juliette Medevielle à la réalisation, Antoine Gomez à la technique, Margot Page, Anna Massardier et Marie Aubert à la préparation, Muriel Pérez à la programmation musicale. On se retrouve lundi à 9h sur France Inter avec un nouveau numéro de l'été comme jamais. Nous évoquerons la place de nos émotions dans la société avec cette question: pourquoi pleure-t-on plus facilement? En attendant, place à la philosophie avec Charles Pépin. Bonjour Charles, qui vous accompagne ce matin?
Bonjour, aujourd'hui mon invitée est la psychologue et psychothérapeute Émilie Debeuil et avec elle, nous essaierons de savoir comment trouver le bon psy, comment trouver la bonne thérapie.